Vendredi 11 octobre, quatrième épisode de Sortie de Zone. Avec nous aujourd'hui, Philippe Quentin de La Presse et du 98.5. Allô Philippe.
Salut Mario.
Et Guillaume Lefrançois de La Presse et de Sortie de Zone maintenant. Hein? ça fait partie de ton curriculum. Salut Guillaume.
Salut Mario.
Nous aurons un invité spécial un petit peu plus tard dans la conversation. Dans la zone nostalgie, si vous voulez, alors qu'on retournera 40 ans.
J'aime ça, la nostalgie.
Oui, t'aimes ça. Puis d'ailleurs, on va retourner à un endroit où tu étais il y a 40 ans. Le premier match des Nordiques dans la Ligue nationale avec un joueur qui portait l'uniforme fleur-de-lysée qui sera avec nous un petit peu plus tard. Je garde le punch tout à l'heure. Tiens, on se garde une petite surprise. Maintenant, revenons aux affaires vraiment sérieuses qui ne tiennent pas du tout de la nostalgie quand on parlera des cérémonies d'ouverture tout à l'heure. Mais le Canadien, notre qu'une victoire à s'affiche en quatre rencontres, c'est sûr que les quatre points au classement peuvent donner une impression de semi-réussite. En termes de récolte de points, ils jouent pour 500, mais en termes de récolte de victoires, ils n'en ont qu'une. Et on le sait qu'en cas d'égalité à la fin de la saison, dans un classement serré, les victoires en prolongation ne valent pas exactement ce que vaut une victoire en temps réglementaire, les gars.
Et on a vu l'an passé qu'un classement, ça se peut que ce soit serré à la fin de la saison.
Très, très, très serré. Et donc, ça a fait la différence à un moment donné l'an passé.
Exact, exact. Cela dit, je pense peut-être à part hier, je pense que les trois premières équipes que le Canadien a rencontrées, ça me semble être des équipes qui vont être bonnes cette année. Toronto, Caroline, on le savait. Je pense que Buffalo est bien parti pour causer une surprise. Détroit, je crois pas que ça va durer. Mais bon, ça reste que c'est un calendrier pas nécessairement facile. Mais il y a quand même des signes assez préoccupants. Je pense que c'est le Canadien. Et ça se sent simplement dans le ton de Claude Julien. Je trouve, moi, dans ses points de presse, on le sent inquiet, préoccupé. Donc, c'est peut-être, moi, le principal nuage que je vois. Là.
Je le sens très lucide dans ce qu'il voit, parce que même les soirs où ils ont ramassé des points, il le disait. On sentait une retenue. Il était content qu'il gagne le match contre les Leafs, mais tu sais, il s'empêchait d'aller plus loin dans le mais. Mais là, il peut y aller. Là.
Il était pas prêt de déboucher le champagne. Là, ça,
non.
Moi, ce que j'ai trouvé d'inquiétant après le match contre les Red Wings, c'est quand il a dit qu'il ne trouvait pas son équipe sharp. Hein, c'est le mot qu'il a employé en anglais
vraiment
et en français. Bon, et là, ça me fait m'interroger sur le camp d'entraînement. Durant le camp d'entraînement, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit que c'est un bizarre de camp d'entraînement parce que il a pas fait jouer sa véritable équipe, là, sauf dans le dernier match. Puis beaucoup de gens disaient ça manque un peu d'entrain comme camp d'entraînement. C'est pas le même tempo que celui de l'année précédente. Le dernier match pré-saison, on n'a pas fait jouer tous les joueurs. Drouin, par exemple, était pas en uniforme. Est-ce qu'on a vraiment été capable de préparer l'équipe de façon optimale pour amorcer la saison? Et puis finalement, toutes ces questions-là ont été balayées avec les performances franchement spectaculaires des deux premiers matchs en Caroline, à Toronto, revenir de l'arrière, même chose à Buffalo. Mais j'ai trouvé que contre les Red Wings, là, on était retombé dans ce type de questionnement-là parce que où tu deviens sharp au début d'une saison, il faut que tu pratiques ça pendant le camp d'entraînement, il faut que tu développes ça pendant le camp d'entraînement. Alors moi, je m'interroge, est-ce que le camp d'entraînement a été optimal? Parce que là, hier, il parlait comme un gars qui était au camp d'entraînement puis qui dit qu'il faut vite qu'on fasse du vidéo puis qu'on retrouve nos repères. Mais là, c'est parce que la saison a déjà un certain nombre de matchs.
Je pense que c'est certainement, moi, tu touches une des cibles qui m'ont fatigué un peu dans la dernière semaine. Puis je sais pas si dans un échange avec toi, je disais, dans le fond, le camp d'entraînement, c'est la tranche des 5 à 10 premiers matchs de la saison régulière. Parce que c'est là que tu sais si Suzuki peut se débrouiller ou s'il peut pas se débrouiller. Ou Fleury, on a déjà une moitié de réponse. Il vient de rater les deux derniers matchs. Et j'ai été intrigué. Je trouve que le camp d'entraînement avait l'air d'un showroom, une salle de montre, excusez, je cherchais le terme, une salle de montre d'un concessionnaire automobile pour voitures usagées, voir qui qu'on réussirait pas à passer pendant ce temps-là, plutôt que de travailler sur ton ensemble. Je sais pas si toi, tu t'es questionné là-dessus. Puis je vais revenir sur le spectacle des deux premiers matchs. Je fais une démarcation entre l'indice de divertissement et l'indice de dire on est rassuré de ce qu'on voit. C'était pas rassurant en termes de structure, ce que le Canadien ferait comme jeu.
Non,
mais
ben,
on est allé chercher des points puis c'était tout un show, fait que on est content. Mais là, la réalité frappe en pleine face dans un match comme hier.
Ben c'est ça, exact. Parce que si un match comme hier, si tu le perds 2-1 parce que l'autre gardien a fait des miracles puis parce que ça jouait très très serré, c'est une chose, mais de perdre de cette façon-là contre, je le répète, des Red Wings qui, je pense pas que ça va se poursuivre pour les Red Wings. Je pense une équipe qui manque profondément, qui manque gravement de profondeur. C'est là que c'est inquiétant. Puis je comprends aussi Claude Julien d'être inquiet parce que les trois premiers matchs étaient sur la route. Il y avait une formation avec quelques jeunes. Il n'y avait pas le dernier changement contre des équipes qui avaient des bons trios quand même, qui alignaient de bons trios. Là, tu arrives dans un match où tu dis, bon, ben là, c'est bon, je vais pouvoir voir mes éléments dans un contexte plus contrôlé. Avec le dernier changement, contre une équipe qui a pas grand-chose derrière le premier trio, ça devrait stabiliser. Puis finalement, ça stabilise pas du tout. Mais absolument pas. Puis je dis, bon, il y a eu 4 buts. Oui, il y a eu un filet désert, mais il y a eu des poteaux. Il y a eu quand même des beaux arrêts de Carey Price. Il continue à y avoir des surnombres, des erreurs défensives. Donc,
c'est en défensive, là, le souci. Puis quand tu commences à avoir des soucis en défensive, généralement, ça déteint sur ton attaque. Parce que quand tu n'attaques pas avec confiance, on dirait que ça enraye toute la machine, finalement.
Ben, tout à fait. Puis le Canadien n'a pas une grosse défensive, là, il faut le reconnaître. Bon, là, on ne sait même plus c'est qui le défenseur numéro un. Là. De plus en plus, les gens disent que c'est Petrie parce que Weber a des ennuis. Puis si c'est Weber le numéro un, ben là, il y a un problème aussi. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Une équipe où on n'arrête pas de dire que pour aider le défenseur numéro un, il faut vraiment trouver un défenseur approprié pour lui. Est-ce qu'on dit ça à propos d'Eric Carson? Hey, pour aider Eric Carson, il faut vraiment qu'on trouve le bon à côté de lui. Pour aider Drew Doughty, il faut vraiment qu'on trouve le... Personne dit ça. Son défenseur numéro un, sont responsables du duo, puis c'est eux qui rendent les autres meilleurs. Mais avec Weber, on dit tout le temps, il faut trouver le bon. Mettez, c'est peut-être pas le bon. On va en essayer un autre. Alors, il y a un problème.
Mais tu parles de difficultés de Weber. Considérez-vous qu'il éprouve vraiment des difficultés?
C'est parce qu'il est lent. Et aujourd'hui, dans la Ligue nationale, qui est très rapide, ça cause un problème, là, c'est évident. Et puis, vu qu'il y a un manque de profondeur en défensive, ben si un gars comme lui, il joue peut-être pas, il joue bien, mais s'il joue pas comme, tu sais, vraiment un star de à chaque match, ça cause un problème.
Moi, je pense que c'est davantage, je regarde pas ça un par un, c'est sûr qu'il faut regarder des individus, s'il y en a qui sous-performent. Tatar a pas un gros début de saison, est-ce que c'est satisfait de...
Ouais, ça, c'est un trio qu'on attendait.
Ben oui,
comme
puis là, le trio hier, tu sais, Dano, Tatar, les gars, en plus. Des mauvaises pénalités. Fait que là, lui, est-ce qu'il est retombé dans sa zone de confort? Parce que l'an passé, il voulait vraiment rétablir son nom dans la Ligue. Ouais, il a été accueilli ici. Oui, Guillaume?
Mais je crois pas que c'est une question de zone de confort, par contre.
Il travaille fort encore.
Ben, c'est ça, exact. Il continue à travailler. Je pense simplement que c'est un autre qui est pas à point, qui est pas sharp, à appeler ça comme vous voulez.
Gallagher n'a pas un gros début non plus.
Mais ce trio-là, en général, ça clique peut-être moins et peut-être que les autres équipes aussi ont passé tout l'été à regarder de la vidéo pour essayer de résoudre un peu là, ce qui se passe là. Est-ce que c'est un problème de relance derrière eux? Ça fait partie des pistes d'explication. Mais disons, je serais pas surpris que ce trio-là, bientôt Claude Julien le démantèle, là, puis tente d'autres combinaisons.
J'ai été surpris qu'il n'essaye pas plus au camp, mais encore là, il n'y avait rien de concret au camp.
Non, mais c'est ça, exactement. Mais au camp, un des facteurs aussi qui explique pourquoi que ça a beaucoup bougé, je pense que le match au Nouveau-Brunswick, ça a un petit peu mêlé les cartes parce que on le voyait clairement, là, le Canadien tentait d'envoyer beaucoup de joueurs francophones là-bas. Alors, par exemple, Jonathan Drouin, qui n'a pas joué le dernier match, ben, c'était ça aussi. Lui, il était parti là-bas à Bathurst, même s'il n'était pas nécessairement avec son groupe, avec ses partenaires habituels, parce que c'est ça, pour l'événement là-bas, on avait amené beaucoup de francophones. Alors, je pense qu'il y a ça qui a peut-être un petit peu déséquilibré les choses. Puis, ben, les petits bobos à gauche, à droite aussi, comme toujours. Là.
Il y a toujours juste 4 matchs de jouer. Le Canadien a 4 points au classement. C'est pas la catastrophe, mais t'as pas une victoire en temps réglementaire.
Mais as-tu vu les 2 prochains matches?
Ça va être de même toute l'année.
Non, mais les Blues. Les Blues de Saint-Louis. Les Blues puis le Lightning. Les champions de la Coupe Stanley, puis l'équipe éliminée rapidement.
Moi, ceux que j'ai hâte de voir, par contre, justement, contre Saint-Louis, c'est chez Weber et Ben Chiarot. Parce que les deux, on n'arrête pas de parler des problèmes de vitesse, justement.
C'est un match pour eux autres, ça.
Ben, c'est ça. Ça, c'est le genre de match, par contre, où, regardez, on ne sait jamais. Puis on le sait, là, ces dernières années, le Canadien a eu de la difficulté contre les équipes lourdes. Ça, c'est s'il y a un endroit où ça bloquait, c'était souvent là. Regardez ce qui est contre les Capitals de Washington aussi, qui est une des rares équipes plus lourdes dans l'Est. Le Canadien avait de la misère. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ces deux-là. Puis, on ne sait jamais, peut-être que dans un autre sens, c'est possible que ça mène à d'autres résultats là, que ce qu'on voyait par le passé.
Tu étais au point de presse de Claude Julien ce midi à Brossard, Guillaume. Et Claude Julien nous envoie pas sur des fausses pistes. Là. Il est assez lucide dans son évaluation de l'équipe. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, même quand il a remonté des points, il restait assez stoïque. Puis, et aujourd'hui, même que, dirais-tu qu'il en a remis une couche dans son évaluation de l'équipe?
En fait, c'est surtout...
Tu parlais de pas Sharp, mais il est allé plus loin vers certains joueurs.
L'évaluation de l'équipe, mais aussi avec les jeunes.
Oui.
Puis ça,
Suzuki?
Suzuki, Fleury, ça m'étonne un peu parce que souvent, les entraîneurs, ou en tout cas, nous, pendant les années de Michel Therrien qu'on a connues, on a tendance à voir les entraîneurs protéger leurs jeunes. C'est sûr que oui, tu vas prendre un jeune, le descendre au quatrième trio, c'est évident qu'il y a quelque chose, mais il trouvait tout le temps une façon de les protéger, de tenir des propos rassurants pour pas en rajouter une couche, justement. Mais non, je l'ai trouvé très honnête dans son évaluation. Ça a commencé plus tôt cette semaine à Buffalo, où il a parlé des habitudes de travail de Nick Suzuki, qui était peut-être pas à un niveau aussi élevé qu'au camp d'entraînement. Là, il parlait pour Cale Fleury. Ben bon,
trouves-tu qu'il l'a vraiment gagné son poste, Suzuki? Moi, je pense qu'il l'a eu tout cuit dans le bec. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'il a marqué un but en prolongation. Puis là, tu sais, dans le fond, quand on voit ce que tout le monde souhaite tellement voir, là, ben, on en beurre un peu plus épais, puis on s'emballe. Comme le cas de Kanyemi l'an passé. Ouais. On avait tellement besoin d'un déflecteur, d'un bouclier anti-sinistre pour dire, hey, finalement, ça va mieux, pour faire oublier le reste. On dirait qu'on a plus besoin d'eux autres pour ce qu'ils amènent dans la perception de l'équipe que pour ce qu'ils amènent sur la glace. Puis ça me dérange.
Ben, voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je pense que tout ça, c'est dû à l'été de Marc Bergevin. Qu'on le veuille ou non, là, c'est une équipe où cette équipe-là ne s'est pas améliorée. On est allé chercher un gardien réserviste, là, tant mieux, il en fallait un. Ben, encore là, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur le long terme. Puis on a échangé Ben pour Chariot, puis on est allé chercher une couple de joueurs de soutien. Donc, essentiellement, équipe.
Andrew Shaw
est parti. Hein, bon,
c'est
en plus.
Il est là, le trou.
Ben, il est là. Alors, donc, là, compte tenu de ça.
Si Suzuki ne te comble pas, oui, continue, ouais, ben, mais oui, il est là, le trou, ben, si Suzuki ne le comble pas.
Mais quand t'es le Canadien, puis là, tu dis, bon, j'ai la même équipe. Si je veux donner un peu d'espoir aux fans, puis amener un petit peu de sang neuf dans l'équipe, parce qu'il faut que tu fasses ça. On le sait, une équipe, ça prend du sang neuf. Faut que ça tourne un peu. Et là, tu dis, ben, j'ai plus vraiment d'options. Ma seule option, c'est faut que les jeunes fonctionnent. Alors, Suzuki, Fleury, un regard très favorable jeté sur leur travail, puis c'est parfait. Moi, j'applaudis. Mais je te rejoins, Mario, là-dessus, à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on les met dans l'équipe parce qu'on pense vraiment qu'ils vont avoir un impact important dans la première année, ou on dit, ben, tu sais, ça va donner de l'espoir aux fans, puis de l'espoir aux autres joueurs, puis tout le monde était, souviens-toi, par exemple, tous les autres joueurs du Canadien.
Oh, Gallagher, tu viens après un match, ben lui-même, il disait, c'est sûr, c'est un gars de la Ligue nationale.
Mais, ça, c'est Dano qui a dit, c'est le petit magicien.
Mais Gallagher aussi se fait leurrer parce que lui, là, dans le fond, il évalue un kid dans une circonstance de match de la Ligue américaine aussi.
Oui, ben, de toute façon, les propos des joueurs aussi, ça faut apprendre et en laisser, parce que c'est sûr qu'ils sont toujours là pour aider leur chum, là, comme on dit. La nuance que je pense qu'il faut apporter pour Suzuki, je dis pas qu'il l'a eu tout cuit dans le bec, mais c'est que en raison de l'été de Marc Bergevin, il y avait un trou qui était justement Andrew Shaw. Cette place-là dans le top 9 n'a pas été remplacée. Mais oui, Suzuki a connu un très bon camp, puis moi, il n'y avait pas de doute, tant qu'à moi, qu'il avait mérité
sa place.
De commencer la saison. Je dis pas qu'il avait mérité sa place pour l'année, mais qu'il avait mérité de commencer et qu'il en avait assez fait pour démontrer qu'il était une solution pour combler ce trou-là pour le moment. Sauf que là, bon, on se rend compte quand ça commence pour vrai que, bon, qu'il y avait tout un step, là, disons, entre les matchs préparatoires
vraiment,
et la vraie saison.
Vraiment.
Alors non, il l'a pas gagné par défaut, mais s'il y avait eu 9 vrais attaquants, top 9, dans cette équipe-là, ben là, peut-être que ça aurait changé la perception et peut-être que malgré un bon camp d'entraînement, il aurait dit, ben, va à Laval, là, jouer premier trio.
Pas de commotion cérébrale, là. Payling commence probablement l'année à Montréal. Il brûle pas la Ligue américaine en ce moment, là. Et donc, en tout cas. Mais on va écouter Claude Julien aujourd'hui, après la séance d'entraînement, où je pense, c'est un des collègues, je pense que c'est Martin qui lui demande, bon, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu insistes dans tes séances vidéo, là, où on tente de replacer le cadre, la structure de cette équipe-là?
Écoute, c'est simple. Tu démontres les choses où ce que on fait défaut. Puis aussi, tu démontres des choses qui vont encourager les joueurs à jouer d'une certaine façon. C'est que t'as des corrections, puis t'as du positif aussi pour, justement, là, on veut pas que les gars partent d'ici le frustrés. On veut qu'ils soient motivés pour bien jouer demain soir. Ça fait partie de l'apprentissage d'un début de saison. Là, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas joué, puis ces choses-là, ça l'arrive pas seulement à nous, là, ça l'arrive à presque toutes les équipes dans la Ligue à un moment donné, là, mais en début de saison, c'est une question de redresser, disons, l'équipe, puis la faire jouer de la bonne façon.
Je pense pas que Claude veuille s'en servir comme excuse, parce qu'il y en a une couple qui disait ça dans l'entourage de l'entraînement ce matin, que le Canadien, se faisait longtemps qu'il avait pas joué. Je sais pas qui le premier a amené cet argument-là, parce que ça fait à peu près 6 mois qu'il avait pas joué un match de saison régulière, compte tenu qu'ils ont été éliminés en saison régulière, mais tu sais, Buffalo aussi a été éliminé, puis ils ont un bon début de saison. Edmonton, fait que j'espère qu'on n'accorde pas trop d'importance.
Détroit qui les a battus hier et pas allés loin en série.
Non, non, ça a pas mal fini en même temps que le Canadien.
Mais ça prend pas un grand connaisseur de hockey, ni la tête à Papineau, là, pour comprendre c'est quoi le problème du Canadien? Ils ont 4 matchs de jouer, ils ont accordé 18 buts. Fait que moi, je vous annonce tout de suite, je vous fais une prédiction que le Canadien va avoir une chance, une très bonne chance pour la loterie et Alexis Lafrenière si le Canadien corrige pas ses problèmes en défensive et en désavantage numérique et un peu de discipline parce que ça provoque des désavantages numériques et la qualité des tireurs des autres équipes. Là, on affronte des équipes dont certains jeunes espoirs ont pris un peu de galon. Un Anthony Manta est rendu une menace de tous les instants sur la glace. J'ai pas besoin d'en rajouter sur Matthews ou Aho en Caroline puis des gars qui les entourent, High Cole à Buffalo. Fait qu'on fait face à des menaces triple A, et on a une défensive triple Z. Si tu corriges pas ça, les boys, salut Alexis, on repêche à Montréal l'an prochain, c'est ça la priorité.
Ouais, puis je trouve que ça rappelle aussi, moi j'ai tellement de misère avec la fameuse théorie que Marc Bergevin a aussi souvent énoncée, avec Carey, tout est possible. C'est pas vrai qu'avec Carey, tout est possible. D'ailleurs, avec Carey, je comprends qu'il a été blessé une année, mais avec Carey, le Canadien a raté les séries 3 fois en 4 ans. Alors, c'est pas de la faute à Carey Price, là, je veux bien qu'on me comprenne. Il a été le meilleur joueur de l'équipe très souvent, mais c'est pas suffisant. Tu peux pas simplement dire, j'ai mon gardien de but, c'est mon star, c'est ma vedette, puis grâce à lui, je vais réussir à lancer les éliminatoires puis à corriger tous les problèmes. Oui. Ça se passe pas demain. Il était bon. Hey, contre Toronto, Carey Price, il a donné 5 buts, puis il était bon.
Ça dit long sur le niveau de talent qu'il y a dans la Ligue maintenant. Mais tu sais, si tu donnes 40 tirs par match, comme ce que le Canadien a fait pas mal depuis le début, c'est plus avec Carey, tout est possible. Je veux dire, même Carey Price à 40 tirs par match, avec la qualité des occasions que le Canadien accorde. Puis l'autre chose aussi dont on ne parle pas, mais c'est la qualité des joueurs qui obtiennent ces occasions-là.
Ben, c'est ça.
Les trois matchs sur la route, hier, tu ne voulais pas qu'il y ait la rondelle. Puis les trois matchs à l'étranger, regarde c'est qui les joueurs qui avaient le plus de tirs pour les autres équipes. Ben, c'est ça, c'était tout le temps les meilleurs joueurs. C'était Skinner, c'était Eichel, c'était Matthews, c'était Aho.
On peut-tu mettre un gars dessus, mettons? Non, mais stratégiquement, là, je veux dire, je me fous un 5 contre 4 transformé en 4 contre 3, mets un gars dans les culottes de Matthews, je mets un gars dans les culottes de Manta, puis je suis convaincu que consignes doivent ressembler à ça. Je sais pas comment Claude ou Richardson prépare son désavantage numérique, mais certain que c'est des gars menaçants.
C'est sûr qu'il faut que tu isoles ces joueurs-là, parce que 40 tirs par, le chiffre 40 tirs par match, ça fait peur, mais des fois, tu peux avoir un 40 tirs par match qui est pas un problème parce que les tirs viennent de la ligne bleue, viennent de loin, viennent d'autres angles ou parce que c'est des joueurs de soutien. Mais c'est ça, quand c'est des joueurs de cette qualité-là qui obtiennent des tirs de qualité, on a beau dire que Carey Price est un des meilleurs de la Ligue nationale à sa position, mais Austin Matthews, c'est aussi un des meilleurs tireurs à sa position. Mm. Donc, si Austin Matthews tire 6 fois sur Carey Price dans un match, là, il y a bien bonnes chances qu'il en marque au moins un, si c'est pas 2.
Je sais pas si vous allez être d'accord avec ça, les gars. Ce qui fait la différence, peut-être, dans le ton de l'analyse aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont perdu leur match d'ouverture. Tu sais, un match d'ouverture, premièrement, je sais pas qui décide de mettre 2 matchs en 2 soirs. Tu sais, l'équipe haute, c'est sûr que tu favorises peut-être pas ton niveau d'intensité de performance, mais en début de saison, j'espère que ça non plus.
J'espère aussi.
C'est pas une excuse. Alors, la passion qu'on souhaite retrouver dans des circonstances comme celle-là, elle n'était pas au rendez-vous. Est-ce que Max Domi doit jouer seulement à Toronto pour jouer avec passion? Puis je dis lui comme exemple parce que c'était vraiment flagrant là qu'il rajoutait 3 coches de niveau d'intensité à Toronto comparativement à ce qu'on voit dans les autres matchs. Mais je le prends en exemple pour incarner ce que je vois des autres. Donc, la défaite d'hier change peut-être la perception qu'on avait du possible début de saison du Canadien?
Est-ce que change la perception ou encore, posons le problème de façon différente. Est-ce que ça se pourrait... Là, on s'entend que l'équipe de cette année ressemble beaucoup à celle de l'an dernier. Est-ce que celle de l'an dernier a vraiment performé à la hauteur de ses capacités ou elle est allée bien au-delà de ses capacités? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'équipe de l'an dernier est allée bien au-delà de ses capacités.
Puis individuellement,
Individuellement, tu as 6 ou 7 joueurs qui ont atteint des sommets en carrière.
Des joueurs importants.
Oui, ben, il y en a qui
est
parti.
Je peux pas démolir ton idée de même. Ça serait de la mauvaise foi.
Puis ils reviennent à leur niveau peut-être plus normal et que ça va être une saison plus difficile.
Mais tantôt, tu as prononcé un mot là, par rapport au fait que les autres équipes, et je l'avais marqué, indice d'amélioration, c'est que là, on a vu notre équipe au camp d'entraînement. Là, on voit l'équipe en vrai match de saison et on est en train de constater aussi jusqu'à quel point les adversaires se sont améliorés. Pas toujours par des transactions, là. Les gars, les jeunes gars, ouais, les équipes moribondes qui ont repêché parmi les premiers, ben là, ces gars-là sont menaçants. Je répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a affronté quelques-uns dans ce jeune début de saison-là.
Ça va venir pour le Canadien.
Ça va venir,
mais c'est peut-être pas cette année.
Oui.
C'est juste ça va venir. Là, et là on est un peu dur à l'endroit de Suzuki, mais ça demeure un très bel espoir. Oui, puis Kotkaniemi, il a un bon début de saison, puis il a déjà marqué à l'étranger, chose qu'il avait pas faite encore la saison dernière. Tu sais, non, mais il y a du positif aussi, là. Et puis Poehling, tu le dis toi-même, il brise rien à Laval, mais il a connu, ben, jusqu'à temps que soit blessé, connaissait un bon camp.
Ça fait seulement deux matchs.
C'est un bon joueur. OK, alors il y a ça, mais c'est peut-être encore trop tôt pour leur demander ça. Ils ne sont pas au niveau des, des AO puis des mais, Matthews qui sont là depuis trois ans.
Puis ces équipes-là, là, justement, Caroline, Toronto, puis même Buffalo, si ça continue, c'est des équipes qui ont souffert longtemps. Là. Ça s'est pas fait.
Eichel, ça n'a pas été génial en partant.
Non, non, c'est ça. Ça s'est pas fait en un an ou deux de relancer la machine. Là.
Donc, moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, puis je suis convaincu comme observateur depuis si longtemps de la scène du sport, vous n'êtes pas insensible à ça, puis je pense qu'elle est là, la solution. Claude Julien a dit qu'il n'était pas sharp, mais il a aussi fait allusion au fait qu'il ne jouait pas en équipe de cinq. Puis c'est un sport d'équipe. C'est sûr que dans l'analyse et dans le commentaire, on va passer par des individus. C'est intéressant d'analyser le jeu de l'un et de l'autre, mais ça a glace là, actuellement là, on est loin de la structure, même s'il n'y a pas tant de joueurs différents que ça qui permettaient aux Canadiens d'être vraiment dans le match l'an passé plus souvent qu'autrement. Mais c'est tôt pour juger d'un paquet d'affaires, puis je suis convaincu qu'ils vont s'occuper de raffermir la structure. Juste avant d'accueillir notre invité spécial, les gars, je voulais quand même revenir entre autres sur les propos de Ron et quelques collègues également qui semblaient déçus de la qualité des présentations, des cérémonies d'ouverture hier. Et Ron est même allé jusqu'à, dans son propos, dire que peut-être que les cérémonies d'ouverture avaient un peu gelé, paralysé l'équipe locale, qui est pas sorti hier avec émotion. Avez-vous une opinion là-dessus?
J'étais pas au Centre Bell, l'avertissement, parce que je revenais de Buffalo hier, mais j'ai écouté à la télévision et la perception que ça donnait était qu'effectivement, on dirait que ça applaudissait pas beaucoup. Ils ont présenté les... Tu sais, je pense que Kirk Muller est peut-être un de ceux qui a eu les plus gros applaudissements.
Et rien de comparable à ses bonnes années.
Non, c'est
rien
ça, exact.
Rien de comparable. Il y a déjà eu des méga ovations, c'était quasiment embarrassant.
Ben,
là.
C'est ça, exact. Puis là, c'est ça. Puis là, oui, Carey Price, mais non, ça manquait effectivement d'émotion, de passion, quelque chose. Puis, tu sais, le Alléluia de la chorale. La chorale a fait une super, super job. Ça, c'est aucunement une critique contre la chorale. Les jeunes chanteurs ont fait vraiment, c'était très, très beau comme interprétation. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour lancer le party dans un aréna, un match d'ouverture, d'avoir la chanson Alléluia? Je sais pas.
Pas sûr, hein?
Je suis vraiment pas sûr. Vraiment, j'ai un sérieux doute sur le choix.
Allez, Philippe, je vais vous donner mon point de vue ensuite.
Moi, je pense qu'un des problèmes, là, c'est que le Canadien n'a pas participé aux séries éliminatoires trois fois en quatre ans. Puis, veut pas, ça brise un peu l'enthousiasme des gens. Les gens, ils arrivent au Centre Bell, là, cette année, là, puis ils ont un doute. Puis, on le voit de toute façon. Les codes d'écoute ont un petit peu baissé à la télévision. J'ai jamais vu autant de publicité dans le métro, dans les journaux pour acheter des billets du Canadien. On voyait pas ça avant. Maintenant, les mini-forfaits puis tout ça. Donc, on sent là, que c'est plus difficile à vendre à l'heure actuelle. Le Canadien demeure immensément populaire. Le Canadien fait des profits. On en parle abondamment. Mais est-ce que la passion est là? Est-ce que la flamme est là? Puis moi, je pense qu'elle n'est pas tout à fait là puis que ça a un impact sur la réception du public à un match d'ouverture. Parce que,
pas si la flamme est là, mais
le flambeau est tout le temps là. Parce que, tu sais, quand le Canadien s'est rendu loin en 2014, là, 2015 après la cérémonie d'ouverture, je pense que c'est elle que Michel Therrien avait été applaudi. Ouais, c'était incroyable. Il est devenu presque les larmes aux yeux. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait eu des résultats l'année d'avant, une demi-finale inattendue. Les gens étaient embarqués. Mais là, il n'y a pas de série dans les deux dernières années. Quoi? Les gens vont aller les ovationner.
Ils n'ont pas gagné une série depuis 2015. Ouais. Puis tu sais, quand tu parles des séries, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ça aussi. C'est les moments en séries éliminatoires qui créent des liens, qui créent un attachement des partisans avec les joueurs.
Voilà.
Dale Weiss était devenu un joueur populaire. Pourquoi? Ben, parce qu'en série, il avait été bon. En 2014, il a été bon dans les séries. Fait que là,
c'est bon ce que tu dis,
Guillaume. T'as pas de Dale Weiss dans l'équipe actuelle. Vous êtes les seuls.
J'ai un quiz pour vous autres, les gars. Oui. Qui est l'ancien le plus applaudi sur l'écran? Quand on voit des images des anciens, là, je sais pas si vous allez avoir le même score que moi. Moi, j'ai ma réponse, mais selon vous, là,
Patrick Roy.
Moi, je pense que c'est Sakou Koivu.
Ah ouais
aussi.
Puis il a pas gagné la Coupe cette année, Sakou Koivu.
Mais il y a toute une histoire.
Il y a toute une histoire. Puis il y a une question d'âge aussi. Je veux dire, pour avoir vu Patrick Roy, il faut peut-être 33 et plus.
Ouais,
en tout cas,
c'est vrai ça.
Ouais,
ça
fait que donc, l'ancien le plus applaudi au Centre Bell, il a pas gagné la Coupe cette année. Mm. Faut prendre des notes, là. Tu sais, c'est l'appréciation. Il faut que tu aies été touché par quelque chose. En fait, je suis votre idée des succès récents ou de quelque chose qui t'a touché profondément. Mais... moi, la manière que je regarde ça, moi, y aller en demi-teinte. Je pense, Philippe, t'as eu, à cause de la tournée de promo de ton livre, t'as eu à beaucoup te promener. Fait que t'en as vu des bouts, mais je pense que t'as eu des échos différents, des gens qui ont aimé, des gens qui ont pas aimé. Ce matin, dans la Gazette, on parle d'une cérémonie impressionnante, alors que, par exemple, François, notre ami François Gagnon, RDS, lui est déçu. Ron est déçu hier. Ben, moi, de la manière que j'ai vu ça, j'ai regardé ça à la télévision hier, compte tenu que j'avais pas d'émission, alors puis qu'il faisait beau. Je suis allé jouer au golf. Mais j'ai regardé le match en entier, les cérémonies. Et quand Alléluia. Moi, j'aime ça, la musique. C'est une belle chanson, Alléluia, c'est magnifique, avec une chorale dans la résonance du Centre Bell. Moi, là, ben franchement, ça me donne des frissons, des affaires de même. Vu sur les images, mais je suis un gars de 53 ans, j'ai pas 22 ans, je regarde les images en noir et blanc des gars qui ont trimé dur, qui ont gagné des coupes, qui ont saigné de partout, des Patrick Roy, des Sakou Koivu qui a pas gagné la coupe, qui nous rappelle ce souvenir-là, des... je les nommerai pas tous, mais vous savez ce que je veux dire. Alors, le mix de Alléluia avec les photos d'archives à 7h05, moi, je regarde ça, puis moi, ça me fait de l'effet. Maintenant, je vais revenir après ça pour te dire peut-être comment je vois ça autrement. Puis là, ben les cérémonies, le flambeau, pis tout ça. Je pense que la réussite des cérémonies de clôture du forum et de l'ouverture du Sound Motion, ça a créé un monstre. C'est-à-dire que c'était tellement beau avec le flambeau puis tout ça que on est encore accroché au flambeau. Puis c'est écrit dans le vestiaire. Je peux pas leur en vouloir de respecter comment on appelle ça, le proverbe là, qui est inscrit en grosses lettres. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, qu'on joue encore autour de l'image. Je peux pas leur en vouloir de vouloir créer une image avec le joueur de franchise, Carey Price, à la fin d'une cérémonie, le bras dans les airs avec le flambeau dans les airs. Hey, ça vaut de l'or une photo de même, là. Malheureusement, on l'a pas bien capté à la télévision, mais je suis convaincu qu'il y a eu... Fait que tout ça, c'est beau. Mais là où je te rejoins, Guillaume, tu dis, on veut-tu entendre Alléluia avant un match? Peut-être que là, il est temps qu'on sorte de l'aspect un peu trop solennel, un peu trop sérieux, un peu trop merci. Il y a plusieurs, notre ami Alain Pronkin sur Twitter n'arrête pas de faire des analogies entre la religion et le Canadien.
Mais c'était après Alléluia, c'était Personal Jesus. On restait dans le religieux.
Ben, peut-être, regarde, c'est correct. Regarde, c'était ça cette année, c'était ça. Mais peut-être que, sans critiquer ce qu'ils ont fait, je pense que ça marche encore pour une partie de l'auditoire, peut-être qu'il est temps de transformer ça en quelque chose de plus festif.
Mais le Canadien a un petit peu de misère à s'adapter à tout ça. Souviens-toi quand ils ont lancé leur compte Twitter, là, puis ils voulaient s'inspirer un petit peu des Golden Knights à Vegas, puis là, whoop, il y a eu une joke malheureuse tout à coup sur Brad Marchand. Là, non, on n'est pas prêt à ça. C'est comme si c'était pas dans l'ADN du Canadien. T'sais, le Canadien a un ADN qui est extrêmement présent, puis cet ADN-là, il tire sa source dans les Coupes Stanley, puis dans le flambeau, puis dans le Rocket, puis dans le gros Bill, puis dans Flower, puis dans Casso. C'est ça, là. Ouais. Ils appellent par leur prénom, puis je l'ai dit, puis tout le monde sait de qui je parle. T'sais, alors, c'est ça la force du Canadien. Alors, moi, je ne leur reproche pas du tout de miser là-dessus. Puis je pense que s'ils s'en allaient dans quelque chose qui ressemblerait plus à Vegas, ça les dénaturerait un peu.
Ben oui, il y aurait l'air de courir après eux.
Ouais, mais moi, je pense encore une fois que tout ce qu'ils font, ça manque de je dirais pas d'authenticité, mais ça connecte moins bien avec le public en raison des insuccès de l'équipe. Puis si hier, les gens ont un jugement difficile...
La victoire.
C'est ça. Les gens sont tannés. Là. Ils sont tannés les gros choix. Gagner des matchs, là. Puis participer aux séries. Puis on veut jouer au printemps.
Le flambeau, là...
Ça change d'ambiance.
Le flambeau, si le Canadien avait gagné, je sais pas moi, 2 Coupes Stanley dans les 10-15 dernières années...
Ça serait autre chose.
Il signifierait quelque chose. Mais là, maintenant, il signifie quoi? Je sais pas.
Ben, il finit la fermeture du forum puis l'ouverture du Sound Motion dans lequel on n'a rien gagné encore.
Mais tu sais, je veux dire, là, c'est bon, si le Canadien finit par gagner une Coupe Stanley dans les prochaines années, puis qu'il y a un passage de flambeau de Guy Carbonneau vers celui qui sera le capitaine, on va dire. Là, oui, là tu as une signification de quelque chose, mais là, ça fait 26 ans que le flambeau ne veut plus rien dire.
Vous écoutez.
Donc, dans 5 ans, tu penses que Carbo va passer le flambeau à Kotkaniemi pour célébrer la Coupe de 2024. C'est ça, là.
Je lui souhaite à Carbo qu'il ait la chance de faire vivre ça à quelqu'un de plus jeune, là, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est ça, là. Je pense que ça vient. Je pense qu'on a une partie du problème qui est là.
Vous écoutez Sortie de zone, 4e épisode avec Guillaume Lefrançois, Philippe Quentin et moi-même, Mario Langlois. Les gars, on entre dans la zone nostalgie. On va reculer de 40 ans et on a un invité à vous présenter. Lui, il avait pas trop de misère à sortir de la rondelle de sa zone à vitesse qui patinait. J'aurais été bien curieux de le voir évoluer dans le hockey d'aujourd'hui où on sévit davantage contre l'accrochage. L'ancien des Nordiques de Québec, auparavant des Draveurs et des Remparts. Pierre Lacroix qui est avec nous au bout du fil. Salut Pierre!
Bonjour Mario, comment ça va?
Ça va très bien, je suis vraiment content de t'entendre. Merci de te joindre à la discussion. Philippe Quentin était sur place quand tu as joué à l'image de beaucoup et Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Parce que Pierre, tu étais en uniforme pour le premier match de l'histoire des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que ça évoque comme souvenir pour toi?
Ben, que je suis vieux.
On l'est tous.
Ben, c'est ça, il arrive, hein. Ça fait déjà 40 ans. Dans le fond, c'est des beaux souvenirs parce que, à Québec, dans le fond, on n'a plus d'équipe. Alors, quand on a la chance de se rémover des petits souvenirs comme ça, ben, c'est bien agréable pour tout le monde. Tous les joueurs sont bien contents de ça.
Ben, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Lacroix, c'est l'autre numéro 26 des Nordiques. Hein? T'avais le numéro 26, Pierre?
Hein? Oui, à ma première année, j'avais 26. Puis quand Peter est arrivé, lui, il voulait le 26, puis moi, dans le fond, je voulais le 25 parce que ça, j'avais eu du succès avec ça à Trois-Rivières. Donc, ça n'a pas été difficile de convaincre l'un et l'autre de changer, il n'y a pas de trouble.
Qui avait le 25 avant, donc?
Barry Legg.
Barry Legg.
Barry a laissé son numéro.
Barry est parti. Barry est parti, puis moi, je suis arrivé.
C'est son leg.
C'est son leg. Et bonne, Mario. Ouais. Mais Pierre, moi, je me souviens, j'étais là à ce match-là. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais dans les gradins. J'avais un billet de saison pour les Nordiques. Et puis, ça a été une soirée extraordinaire. Je pense que pour les gens de Québec, puis Pierre, t'es un gars de Québec, t'es un gars de Sainte-Foy, je pense.
Oui.
Tu sais, ce que ça signifiait de voir les Nordiques dans la Ligue nationale, c'est presque difficile à expliquer aujourd'hui. C'était une victoire, c'était le résultat d'un combat de tant d'années. Ça a commencé dans les années 50, le combat pour que Québec ait une équipe dans la Ligue nationale. Puis quand les Nordiques sont finalement arrivés, ce soir-là, contre les Flames d'Atlanta, René Lévesque, le premier ministre du Québec, était là. C'était pas un amateur de hockey, mais il était là. Il était flanqué de Jean Lesage, qui avait été le patron de René Lévesque à l'époque. Lesage était là parce qu'il était président du conseil d'administration des Nordiques. Et John Ziegler, le président de la Ligue nationale, était là. Ça a été une soirée absolument exceptionnelle. Des émotions, j'en parle, j'en ai encore la chair de poule parce que c'était la concrétisation d'un rêve.
Pierre, toi, t'as pas joué dans la Ligue mondiale?
Non, pas du tout. Moi, j'arrivais la même année que la Ligue nationale.
Fait que donc, ça fait pas des années que tu vivais avec ce sentiment-là de vouloir avoir la reconnaissance. Comment tu l'as vécu? Peux-tu nous partager toutes les images qui te reviennent en tête de ce premier soir pour toi, puis le premier soir de l'histoire des Nordiques dans la Ligue? Qu'est-ce qui te revient de cette soirée-là?
Ben moi, c'est un petit peu l'émotion des gens, hein, parce que on avait beau avoir une nouvelle équipe dans la Ligue nationale, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient, si on veut, de la Ligue mondiale de hockey. On avait une équipe qui était qui avait de l'expérience, c'est Serge Bernier, Marc Tardif, Richard Leduc, Pierre Plante qui étaient présents. Donc, c'est quand même des joueurs d'une trentaine d'années, proche de la trentaine. Donc, on avait quand même une équipe d'expérience. Mais il y en a beaucoup dans tout ça qui n'avaient pas beaucoup de millage, si on veut, dans la Ligue nationale, comme moi, je n'avais absolument pas. Donc, même pour ces joueurs-là, les plus âgés, c'était beaucoup d'émotion parce qu'enfin, ils pouvaient jouer dans la Grande Ligue et puis prouver justement aux gens que la Ligue mondiale, c'était quand même une belle ligue de hockey. Et puis, moi, pour moi en plus, ben là, moi, c'était après mon premier match de la Ligue nationale. Je venais de Québec. Dans le fond, les Nordiques me faisaient confiance. J'ai quand même joué le premier match des Nordiques de la Ligue nationale. Pour ça, ben pour moi, je suis bien fier de ça.
Tu te souviens-tu de paroles de gars, justement, je trouve ça intéressant, l'angle des gars qui avaient touché à la Ligue nationale, des Marc Tardif et compagnie. Je sais pas si t'as qui les leaders des Nordiques là en 7-1 dans la LNH. Te souviens-tu de paroles qui t'avaient vraiment fait sentir à quel point c'était important pour certains de ces gars-là?
Je te dirais que c'est le silence. Parce que même ces gars-là étaient nerveux. Chick Body, lui, avant le match, il avait prédit qu'il allait scorer 3 buts. Et puis, il n'avait scoré trois en troisième période. Je pense que ça avait sauvé le match. Là. Les gens de Québec avaient capoté en troisième période. Là. Ça avait super bien fini le match. Puis, tu sais, les gens pouvaient espérer que les Nordiques soient compétitifs un peu dans la Ligue nationale. Au moins, une partie de l'année. Là. On n'a pas été compétitifs toute l'année. Mais quand même, au moins pour la moitié de la saison, on a été quand même assez compétitifs.
Vous vous en souvenez, Philippe? Tu dois t'en souvenir. Puis Pierre également. J'aimerais ça t'entendre, Pierre et Philippe, ensuite. C'est que c'était intéressant, le lendemain, dans les journaux de Québec, on était content pour Réal Bodé Cloutier qui avait marqué un tour du chapeau, puis le fait qu'il réussisse ça au premier match dans la Ligue nationale, tu sais, dans les choses qu'on avait à confirmer entre l'AMH puis la Ligue nationale, c'est que ça disait, hey, Réal Cloutier, il est capable d'en mettre dedans dans grosse ligue, Pierre, hein?
Ben, tout à fait, puis il était pas tout seul là-dedans, tu sais, Marc Tardy, c'était quand même un très très bon joueur, c'est lui qui a supporté les Nordiques dans la Ligue mondiale, Serge Bernier qui avait beaucoup d'expérience également, qui était quand même plus vieux, puis on avait des gars comme Pierre Plante, Richard Leduc là, qui complétaient, disons, le trio des plus âgés, il y avait Jerry Hart à défense avec moi, donc tu sais, il y avait quand même des vétérans.
Jerry Hart, c'est ça l'équipe là.
Ben justement, Pierre, je voulais te demander, moi, est-ce que dans cette transition-là là, entre l'AMH et la LNH, est-ce que tu sentais que ces joueurs-là qui étaient déjà avec les Nordiques dans l'AMH, est-ce que tu sentais qu'ils avaient quelque chose à prouver, qu'eux sentaient qu'il y avait quelque chose à prouver aux amateurs de hockey puis au monde du hockey, comme quoi qu'ils étaient capables de tenir leur bout dans la LNH là?
Oui, autant qu'une recrue, je pense. Wow. Parce que ces gars-là étaient très nerveux. La journée du match, là, tout le monde était nerveux. Puis même les plus âgés nous disaient, hey, vous allez voir, ça va vite. Là. Ça va aller vite tantôt, là, parce que c'est encore plus vite la Ligue mondiale de hockey. Donc, préparez-vous, ça va aller vite. Puis comme de fait, ça allait très vite.
Et puis toi, est-ce que tu trouvais que ça allait vite aussi par rapport, au... par
rapport bien aux sûr, juniors? J'étais une recrue. Tu sais, j'avais 20 ans dans le temps. C'était mon premier match à la Ligue nationale. Donc, j'avais eu la chance de jouer sur le premier match, là, de jouer sur les avantages numériques avec Marc Tardif, avec Réal Cloutier, Serge Bernier. Donc, j'avais pu ramasser une coupe de points ce match-là. Fait que ça avait été quand même, pour me donner confiance, c'était la bonne façon.
Philippe, étais-tu content de voir Réal Cloutier, toi, sauter dans les airs? Après,
ben oui, c'était extraordinaire parce que, écoute, c'était la grosse question, tu sais. Bodé, il avait accompli des miracles avec les Remparts de Québec dans le hockey junior. Il décide d'aller dans l'AMH. Puis là, la dernière année de l'AMH, il a été champion marqueur, champion pointeur. Ouais. Un joueur de hockey extraordinaire. Moi, je me souviens d'avoir déjà fait une entrevue avec Marc Tardif il y a quoi, une dizaine d'années. Quand Marc Tardif parle encore aujourd'hui de Réal Cloutier et de son petit bâton de hockey, il jouait vraiment avec un bâton très court. Tu sais, il dit qu'il était extraordinaire, le Réal Cloutier. Il pouvait déjouer tout le monde en regardant dans les estrades, puis il savait encore où il était sur la patinoire. Il y avait un don formidable. Et d'ailleurs, si Réal Bodé Cloutier, Pierre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si ce n'était pas cassé la jambe ou la cheville dans un match de balle molle à peu près un an plus tard, je pense que sa carrière aurait été différente.
C'est tout à fait vrai, parce qu'il avait connu une très, très bonne première saison. Puis tout de suite après, la saison d'après, il s'était cassé l'os de la cheville, l'astragale, en fin d'été, donc en début de camp d'entraînement, presque. Donc, il a manqué toute la saison. Il a joué peut-être quinzaine de matchs cette année-là. Donc, ça nous a manqué énormément. Puis c'était en plus la première année où les Stachny arrivaient, Peter et Anton. Donc, je pense que ça aurait fait un beau trio au départ, ce Peter, Anton, Bodé. Là, ça aurait fait franchement un beau trio. Puis le deuxième trio, c'était on avait Hunter, Goulet, puis Jean-Richard aussi qui jouait avec nous autres cette année-là. Ouais. Donc, ça aurait peut-être été assez bien avec un autre comme Bodé dans le line-up.
Est-ce que tu te souviens, Pierre, là, on parle du premier match, mais est-ce que tu te souviens du deuxième match des Nordiques dans la Ligue nationale? Je pense que tu dois t'en souvenir aussi.
Ben, c'est Colorado, on
connaît. Non,
Canadien?
Montréal, non. Canadien,
ouais. Canadien.
Le match d'après le troisième Colorado, on avait
gagné. C'est ça.
Ouais. Ben, c'est ça. Tout de suite après, on s'en va au forum. Puis là, à ce moment-là, ben, je sais qu'il y avait des gens s'attendaient un peu qu'à ce que les Nordiques se fassent un peu, plantés à Montréal. Mais je pense qu'on a quand même fait un beau match, là. On a perdu 3-1, je pense. C'est ça.
Et vous les aviez battus pas bien, bien longtemps plus tard. Je pense une semaine plus tard.
15 jours. Le,
à Québec.
Le 28 octobre, à Québec.
Cette victoire-là, c'était pas votre première dans la Ligue nationale, mais la première victoire contre les Canadiens, Pierre, c'était...
Ça vaut toutes les victoires de la gang.
C'était quasiment une mini-coupe, un mini-championnat.
Ben, on a gagné la coupe, nous autres.
Jacques Demers était l'entraîneur des Nordiques allant 1 dans la Ligue nationale. As-tu un souvenir de Jacques à cette époque-là? Vous avait-il motivé comme il savait si bien le faire?
Oui, puis des fois, il en perdait ses mots, genre, tellement qu'il avait pas parlé, puis il parlait vite en plus, là, puis il était émotif aussi, là, puis toute la saison. On a eu beaucoup de hauts et de bas dans la saison, Et puis, à un moment donné, quand les pas arrivent, mais là, c'est là qu'on, des fois, on panique un peu, là. Puis là, Jacques, il se fâchait régulièrement à la fin de la saison. Mais c'est un petit peu là, l'histoire des on veut gagner, donc on devient émotif.
Je te relance. Philippe nous a donné son appréciation puis une belle description de ce que Réal Cloutier pouvait faire sur la glace. Mais toi qui as joué avec, j'aimerais ça t'entendre aussi nous parler de Bodé, parce que il y en a un paquet qui l'ont pas tant connu, puis les plus jeunes pas trop. Fait que Réal Cloutier, c'était qui sur une glace, pour en ajouter à la belle définition que Philippe nous en a fait?
Ben, Bodé rendait tout le monde meilleur. Hein. Bodé, c'est un gars qui avait une vision du jeu incroyable. C'était un gars qui avait un bon coup de patin. Il avait, par contre, il avait absolument pas de lancer. C'est pas le gars qui défonçait le filet. Par contre, il était très précis. Puis c'est un gars qui aimait ça, faire des passes, ce qu'on appelle un peu dans le hockey, là, du give and go. Demoilet, je vais te l'ordonner. Puis Réal, là-dessus, il était le meilleur. Là. C'est un petit peu un Gretzky qui était capable d'aller dans l'ouverture, puis après ça, avoir du temps pour faire des jeux. Donc c'est un petit peu ça, comment était Réal, c'était ça. C'est pas un gars qui allait travailler dans un coin puis brasser tout le monde.
non.
Il avait pas que dans le milieu, c'était le meilleur pour ça.
Il avait tellement de talent, mais tu sais, Pierre, Guillaume Lefrançois qui est à la presse, qui est ici à mes côtés aujourd'hui. Guillaume, c'est un champion des questions quiz. Avant les matchs du Canadien, sur Twitter, il pose tout le temps ses questions quiz. Puis là, tantôt, ouais, tu as évoqué la première victoire des Nordiques dans la Ligue nationale. C'était contre Colorado, les Rockies. Ouais. Alors, je vais poser une question à mon ami Guillaume. Je vais le mettre sur le spot sans hésitation. Qui était l'entraîneur des Rockies du Colorado? Autrement dit, contre quel coach les Nordiques ont-ils remporté leur première victoire dans la Ligue nationale?
L'entraîneur des Rockies du Colorado.
Je vais l'écrire, moi, ma réponse.
Mario, tu le sais.
Hein, ben,
vas-y.
Mais je laisse encore que tic-tac, Guillaume, t'as 10 secondes. Who wants to be a millionaire? You would like to phone
toi,
a friend?
Pierre, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'en souviens?
Non, pas en tout.
Ça se pourrait-tu que ce soit Coach's Corner lui-même?
C'est Coach's Corner.
Don Cherry.
Don Cherry.
C'était pas sûr qu'il avait eu un autre job après Boston.
Le Colorado.
Il aurait dû m'en rappeler.
Aïe. Pierre, en terminant, on est sur le point de compléter notre sortie de zone, notre balado. Si je te demande comme ça, toi le plus beau souvenir que tu as vécu, la plus belle situation que tu as vécue dans toutes tes années de hockey, as-tu un souvenir qui s'élève au-dessus de tous les autres?
Ben, je suis obligé de dire, c'est les matchs canadiens-nordiques. Parce que c'est des matchs canadiens-nordiques qui se préparaient deux semaines à l'avance. Hein. Tu avais beau avoir des games, les journalistes nous parlaient deux semaines à l'avance, les spectateurs, les amateurs nous parlaient de « Hey, là, on joue contre le Canadien bientôt », tout ça. Fait, ça a toujours été, dans le fond, là, quand le Canadien-Nordique, quand je jouais pour les Nordiques, parce que j'ai joué pour la Fleur d'après, oui. Quand je jouais pour le Nordique, ça a toujours été Canadien-Nordique, c'était des Coupes Stanley à chaque match, puis c'était ça qui était les plus beaux moments. Je pense qu'on jouait la saison pour jouer contre Montréal, puis je pense peut-être que Montréal, c'est pareil. Nous autres, c'était ça, là, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions.
Ça fait du bien d'entendre ça, parce que aujourd'hui, c'est rendu absolument impossible de faire parler d'un joueur du match dans une semaine. Ouais. C'est absolument impossible. C'est tout le temps, le prochain match. Sans aucune exception. Ouais. Donc, je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre ça qu'à une époque, on pouvait y penser.
C'était l'amateur qui était gagnant dans ça. Parce que, tu sais, c'est l'amateur qui nous faisait vivre ces moments-là. Là. C'est lui qui suivait derrière, qui écoutait la TV, puis qui nous parlait partout dans la rue, tu sais, pour nous tenir réveillés.
j'ai encore une photo dans mes archives où je suis avec Pierre Lacroix et Alain Côté sur une glace d'un aréna de Beauce. Oui. Évidemment que j'étais là plus comme figurant qu'autre chose, mais j'étais curieux de savoir, Pierre, est-ce que tu joues encore?
Oui, ben j'ai justement joué hier. Nous autres, on a une petite ligue à Québec, les anciens. Là, on est quelques anciens qui jouent avec des chums. Là. Et puis moi, le jeudi, je jouais tous les jours de l'année. Puis des fois même, ça arrive des fois deux ou trois fois par semaine que je joue au hockey encore. Là. Donc, je me tiens en forme.
Ouais, oui,
c'est qui les anciens, Pierre? Je suis juste curieux de savoir, c'est qui les anciens des Nordiques qui jouent avec toi?
Il y a Alain Côté qui joue, il y a Luc Dufour qui joue, il y a Marc Fortier qui joue, Dave Fichette vient se joindre à nous de temps en temps. Donc,
Calibre est encore pompé?
C'est qu'il n'y en a pas d'autres.
Le Calibre est encore bon?
Ah, ben, on va pas vite, là, mais on réussit à avoir du plaisir. Une chose est sûre, c'est qu'on a du plaisir autant dans la chambre avant que sur la glace, qu'après le match, on a du fun.
Ben, j'en doute pas. Pierre, un gros merci de ton temps avec nous autres aujourd'hui. Pour plaisir de t'en voir en personne.
Au plaisir.
Merci, Pierre.
C'était vraiment le fun de t'entendre, Pierre.
Vraiment, merci. Bravo à Michel Tremblay qui a eu l'idée, d'ailleurs. Merci, Pierre. Voilà. Alors, on est en toute fin de sortie de zone, les gars, et je pense que ça va devenir un peu la coutume de nos sorties. Je vous demande de vous mouiller. Il y a juste un match en fin de semaine. Une victoire ou une défaite, Canadien Blues? Monsieur Lefrançois.
Je vais aller avec une victoire du Canadien 4-2.
Oh, 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 les champions de la Coupe.
Je vais choisir le même pointage, mais pour l'autre équipe.
C'est drôle, il y a quelque chose qui ne me surprend pas. Je pense que le resserrement des choses aujourd'hui va donner des résultats. Ça ne sera pas facile, victoire en prolongation encore. Il n'y en aura pas, de facile. Merci les gars, merci Philippe, merci Guillaume.
Salut Mario,
À mardi prochain, compte tenu que c'est l'Action de grâce. Lundi, notre prochain épisode sera donc mardi. Et je tiens à vous souligner que la balado-émission Sortie de zone est maintenant disponible sur Apple Balado. Les auditeurs, vous pouvez donc vous abonner à notre série, écouter en direct ou télécharger les épisodes pour écoute quand et où ils le souhaitent. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Bon hockey à tous.